Ce qui m'a frappé la première fois que j'ai rencontré Jérôme, c'est sa générosité, son côté attentionné, tourné vers l'autre. Pour lui, c'est clair que personne ne devrait être exclu. Je m'appelle Audrey Metcalf et j'ai la fibrose kystique. À cause de ça, on me dit souvent que je suis donc courageuse ou que je suis une source d'inspiration. Mais j'ai eu envie d'inviter des gens qui vivent avec une différence et qui, eux aussi, se vont souvent dire « je sais pas comment tu fais ». Aujourd'hui, je reçois le journaliste Jérôme Bergeron, qui est né avec une sourdité, tout comme son frère jumeau, et pour qui ça a été bénéfique de partager cette différence-là avec celui qui considère aujourd'hui comme son meilleur ami. Salut Jérôme.
Allô Audrey.
Merci d'être là.
C'est un plaisir pour moi d'être ici.
Est-ce que je sais pas comment tu fais, c'est quelque chose qu'on dit souvent?
Ah, vraiment.
Ouais, hein?
C'est vraiment arrivé souvent dans ma vie, puis je dirais surtout pendant la pandémie. Ah. On dirait que... Ben, c'est parce que pendant la pandémie, avec le port du masque,
oui.
J'ai eu plus d'obstacles. Donc, j'ai dû plus dévoiler mon handicap avec le port du masque.
Oui.
C'était difficile pour moi de lire sur les lèvres. Donc, fallait souvent que je dise « Excuse, j'ai une surdité, j'entends pas ce que vous dites, pouvez-vous baisser le masque? » C'est là que les gens réalisaient « Je sais pas comment tu fais. » Ça arrivait surtout aussi dans mon environnement de travail. « Je sais pas comment tu fais. »
Ah, c'est sûr. Puis en plus, c'est le fait que ça paraît pas, ta surdité, c'est sûr que les gens, il y a un étonnement. Puis là, après, c'est comme, ah, ben on s'en rendait même pas compte comment tu fais ça.
C'est minuscule, hein, des appareils auditifs.
C'est ça. Puis
c'est presque invisible, je dirais, comme handicap.
Oui, ben c'est vraiment ça. Puis c'était pas le cas à l'époque, là, les appareils étaient plus gros quand même.
Ah oui, quand j'étais tout petit, c'était beaucoup plus imposant. Puis même, tu sais, ce qu'on met à l'intérieur de l'oreille, le moule qu'on appelle... Je choisissais souvent des couleurs, c'était le fun quand j'étais petit. Fait que là, j'étais plus...
tu voulais le mettre en valeur.
Oui, je voulais le mettre en valeur. Ben, tant qu'avoir l'occasion, ben, j'étais obligé d'en avoir. Ben, obligé.
C'était nécessaire.
Je voulais en avoir, c'était nécessaire. Donc, je pouvais profiter de l'occasion d'y mettre orange, rouge, bleu.
Ça devenait un accessoire.
Ça devenait un accessoire. On avait chacun notre couleur différente, mon frère et moi. Donc, toi, t'es celui avec les oreilles rouges. Ah, toi, t'es celui avec les oreilles bleues. C'est comme ça qu'on différenciait aussi.
Mais là, quand vous êtes nés, dans le fond, les deux, vous êtes nés avec votre surdité, comment vos parents, ils s'en sont rendus compte?
Ça a été relativement long, je dirais, parce que, bon, on est des jumeaux et on a eu un certain retard de langage. Ça a pris un peu plus de temps avant qu'on commence à parler. Mais au début, les médecins nous disaient à nos parents... Ben c'est peut-être normal parce que les jumeaux, ça a tendance à créer leur propre langage entre eux.
Ouais, c'est ça.
On voit ça souvent chez des jumeaux, un certain retard de langage. Donc, il n'y a pas une inquiétude. Et là, c'est vers l'âge de 3 ans où ça commençait à être vraiment peut-être un peu trop, le retard. Donc là, on a fait des tests et c'est là qu'ils ont remarqué qu'on était les deux avec une surdité sensiblement la même, de modérée à sévère. C'est un effet miroir. Si moi, mon oreille gauche est plus forte, Jérémy, mon jumeau, son oreille droite, elle est plus forte.
Ah oui?
Mais on a sensiblement les mêmes pertes d'audition.
Puis est-ce que tes parents trouvaient que vous étiez... Je sais pas, le fait que vous entendez pas quand ils vous... Parce qu'ils devaient quand même se rendre compte que quand ils vous parlaient, vous aviez moins de réactions. Ils devaient trouver que vous étiez tellement dans votre bulle.
Ben, j'en ai parlé à mon père récemment, puis il m'a dit... Moi, je pensais juste que vous étiez des petits tannants. Des petits maudits qui voulaient pas écouter les consignes. Récemment, on a laissé transférer des vidéocassettes sur des DVD. Et là, j'ai vu un party de Noël. Mon père habite toujours dans la même maison depuis que je suis né. Et là, je vois que mon père, il est quand 3 mètres de moi tout au plus. Puis là, il me dit de lâcher la caméra. Parce que là, déjà, j'avais une fascination pour les caméras.
Oh, c'est
tout petit. Puis là, j'essayais comme de, je sais pas, là, taponner la caméra. Puis il disait, Jérôme, lâche la caméra. Mais je réagissais pas, puis je continuais. Puis là, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ben c'est sûr que sans appareil auditif, à l'emplacement où je suis, en l'emplacement où mon père se retrouve dans la salle à manger, je l'entends pas.
Ben non.
C'est sûr que je comprends pas la consigne, puis je vois que mon père est choqué.
Oui. Mais vous deviez vous faire un peu chicaner.
Ben oui.
Sans que ce soit...
En plus des jumeaux, c'est tannant. On était tannant quand même.
Ah oui, hein?
Donc oui, on se faisait un peu chicaner, mais je pense que quand ils ont réalisé que ça a été une surdité, ça a changé. On se faisait plus chicaner, là, mes parents, je pense qu'on comprenait vraiment mieux notre réalité.
Puis vous êtes suivi dans tout votre parcours scolaire quand même. Les deux, vous avez étudié en journalisme, là, même après le secondaire.
Ouais.
Comment ça s'est passé, le fait d'être deux? Pour vivre toutes ces étapes-là?
Je pense que ça a été un coup de pouce, vraiment, d'être deux à vivre la même réalité. Ça permet... On sait tout de suite vers qui se tourner pour savoir est-ce que tu comprends ce que je vis. Puis des fois, ça arrive pour plusieurs personnes en situation de handicap, on ne sait pas vers qui se tourner, on n'a pas de référence, on ne sait pas si notre ami va comprendre notre réalité. Mais là, j'avais au moins cette chance-là d'avoir mon frère qui comprenait ma réalité quand je comprenais pas ce que l'ami venait de dire ou les consignes dans la salle de classe. Mais souvent, on s'aidait. On a été tout le primaire ensemble dans la même classe. Donc, on s'est beaucoup aidé dans les travaux pour réussir à comprendre ce qui se disait. On avait les mêmes amis aussi. Au secondaire, lui, mon jumeau s'est spécialisé en musique. Donc, okay. Il était en concentration musique.
En musique, c'est quand même...
Ouais. Ça aussi, c'est
oui, ça paraît... Ouais.
Puis moi, ben j'ai pas passé les examens. J'ai pas réussi à me rendre en musique, mais c'est correct. Ça fait du bien de se séparer aussi, de pas avoir tous les cours ensemble.
Oui, c'est sain aussi, à un moment donné, peut-être.
Surtout à l'adolescence, on veut se forger notre identité.
Exact. Ouais. Fait que toi aussi, t'aurais voulu aller en musique.
Oui, ben toute ma famille a fait ça, la concentration musique.
OK.
Mon grand frère, ma grande sœur, donc pour moi, c'était naturel. Mais j'ai pas été accepté en concentration musique. J'ai quand même fait partie de l'harmonie quelques mois, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Donc, ça a été un mal pour un bien. Mm. J'ai réalisé que c'était pas pour moi. Je suis allé dans les arts, plutôt. Les arts plastiques, les arts dramatiques.
Puis est-ce que... Tu sais, souvent, quand on a un handicap, on va ressentir un sentiment de rejet ou d'incompréhension de la part des autres. Tu dirais-tu que ce sentiment-là est peut-être moins fort quand t'es deux à le vivre? Ou c'est quelque chose que t'as peut-être même pas ressenti ou que...
Est-ce qu'il est moins fort? Je sais pas, parce qu'on l'a vécu. L'ai vécu, en tout cas, ce sentiment de rejet.
Tu l'as ressenti?
Oui, je l'ai ressenti, ce sentiment de rejet. Même si on était deux, je me sentais quand même parfois très seul dans ce que je vivais. Oui, il pouvait comprendre ma réalité, mais il pouvait pas la réparer. Il pouvait pas m'aider tout le temps à les enlever, les obstacles qui étaient devant moi. Tu sais, quand la personne décide de t'intimider, elle va t'intimider. Tu sais, mon frère ne pouvait pas arrêter ça.
Non, c'est ça.
Quand un prof ne voulait pas collaborer, il ne pouvait pas arrêter ça. Donc, ce sentiment de rejet, je pense que je l'ai quand même vécu. C'est sûr que ça faisait du bien d'avoir au moins mon frère pour lui exprimer ce qui venait de se passer et comment je me suis senti. Ça, c'est certain. Mais ce qui était moins présent, je pense pas, non.
Puis, as-tu eu des moments de découragement dans ton parcours?
Ben oui. Puis, tu sais, au moins, j'avais cette force de caractère de... Ça durait une couple d'heures. Puis après ça, je me disais, on va passer au travers. Mais tu sais, je me souviens, j'ai encore un souvenir vif de mon premier échec, entre guillemets. C'est quand j'étais en secondaire 1 ou 2, il fallait faire... dans les classes d'anglais, il faut qu'on écoute des chansons. Qu'on réécrive les mots manquants.
J'avais ça aussi.
Ben oui, c'est tout le monde fait ça.
Ouais.
Mais moi, la lecture labiale est une bonne partie de ma compréhension. Donc imagine quand c'est une langue seconde, faire ce genre d'exercice où la musique est extrêmement forte, les paroles, c'est difficile pour moi des fois de diviser la parole du son puis de la cerner. Donc premier exercice comme ça, j'ai rien réussi à écrire. Puis pour moi, c'est là que j'ai été confronté à l'échec de ma surdité m'empêche de réussir cet exercice-là. Puis j'ai eu de la peine parce que je me disais, là, c'est mon premier échec. Puis ça va tellement arriver. Puis là, tout de suite, je me disais, je pourrais jamais parler anglais, je pourrais jamais comprendre l'anglais. Mais j'ai eu une professeure extraordinaire qui m'a amené à l'extérieur de la classe, qui m'a dit, c'est pas grave, on va trouver d'autres façons ensemble de l'apprendre, l'anglais. Puis on va faire d'autres exercices pour pouvoir te pratiquer. J'ai vraiment été chanceux de tomber sur cette madame Nathalie-là qui m'a permis de croire en moi tout de suite. Puis elle m'avait regardé dans les yeux et elle m'a dit, crois en tes rêves, puis je le sais que tu vas les réussir, tes plus grands rêves. Déjà, je savais que je voulais faire de la télévision, que je voulais être journaliste.
Tu l'as toujours
su. Je l'ai toujours su. Madame Nathalie le savait, puis elle me l'a dit, je sais que tu vas être journaliste, puis tu vas réussir.
Ils sont pas toutes comme ça, les profs.
Ils sont pas toutes comme ça. Ça a pas tout le temps été facile.
Ben, c'est ça.
Surtout que les remplaçants qui sont pas conscients de ta réalité.
Oui.
Ça m'arrivait de me faire chicaner quand il fallait lire à haute voix. Chacun notre tour, l'élève, fallait lire le manuel de science, chacun notre paragraphe. Mais des fois, je savais pas où on était rendu où, parce que je comprenais pas, j'entendais pas. Je m'étais fait mettre dehors de la classe, envoyé en punition parce que j'écoutais pas, supposément, avec les gros guillemets, mais c'était pas volontaire, mon intention de pas écouter. Là.
Tu m'as déjà dit que si t'avais à te battre un jour dans ta vie, ce serait pour défendre ton frère.
Mm.
Est-ce que tu le ferais pour toi-même?
C'est une bonne question. Je le ferais pour moi-même, mais je pense que j'évaluerais l'énergie nécessaire. Parce que souvent, longtemps dans ma vie, je décidais tout de suite d'aller aux barricades puis de me battre pour moi-même. Mais avec la sagesse, j'ai bientôt presque 30 ans.
Oui.
Je réalise que des fois, ça vaut pas toujours la peine de mettre autant d'énergie. Puis c'est dommage. Puis, mais des fois, je me dis, c'est peut-être mieux que de pas mettre d'énergie sur cette bataille-là. Puis c'est pour ça que je travaille maintenant en accessibilité puis que j'essaie de sensibiliser les gens à ça parce que je veux que ces batailles-là soient les batailles de tout le monde. Pas juste à moi, Jérôme Bergeron, la personne sourde, mais à tous ceux qui m'entourent, à mes amis, à mon chum. Des fois, mon chum que j'adore, je lui rappelle que ouais, j'ai besoin de lui. Hein, tu sais, quand il est en FaceTime avec sa mère puis j'entends pas, mais des fois, je lui rappelle, répète ce qu'elle vient de dire parce que je veux savoir moi aussi ce que ma belle-mère vient de dire. Donc, grande parenthèse pour dire que on n'a pas tout le temps l'énergie de le faire, mais ça m'arrive souvent de vouloir me battre puis de venir de dire « Hey, j'ai le droit d'être ici puis j'ai le droit de comprendre ce qui se passe. »
Mais je pense que ce côté-là de toi qui est si attentionné, tu sais, je te l'ai déjà dit, moi, c'est ce qui, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est ce qui m'a frappé à quel point tu t'en fais pour tout le monde autour de toi. Clairement que t'as... C'est quelque chose que tu as en toi, mais qui a dû se développer en lien avec ta condition aussi, parce que ça t'a sensibilisé très jeune.
Bien, je pense que d'avoir été mise à l'écart à de nombreuses reprises dans plein de situations, puis, tu sais, entre moi, c'est pas tout le temps volontaire qu'on est mis à l'écart. Des fois, mais c'est involontairement. Oui. La personne elle ne sait pas que tu as la difficulté à entendre, puis que là, tu réussis pas à participer à l'activité. Je pense que ça m'est tellement arrivé souvent que... Effectivement, ça m'habite, puis c'est naturel. Je veux pas que personne se sente à l'écart. Je veux que tout le monde se sente confortable où on est, puis qu'il puisse pleinement participer à l'activité, à la réunion, au tournage.
Que tout le monde soit inclus.
Que tout le monde soit inclus, puis qu'il ne ressente pas ce sentiment-là d'exclusion qui fait mal. Qui fait mal à 8 ans, qui fait mal à 29 ans. Ça fait toujours mal de se sentir exclu d'une situation.
Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont se reconnaître là-dedans. Mmh. Tu sais, je pense qu'on a tous un peu vécu ça, surtout quand on a une différence, là. Mais puis tant qu'on l'a pas vécu, je pense que c'est on réalise pas à quel point ça fait mal. Mmh. Tu sais.
Puis tu sais, des fois, ce que je dis, c'est imaginez dans votre contexte, je sais pas, au travail, vous voulez absolument travailler sur un projet. On dit « Non, non, toi, aujourd'hui, tu ne travailles pas sur ce projet-là, ça ne nous intéresse pas. » Ça fait mal, mais c'est ce que les personnes en situation de handicap vivent quasi quotidiennement, régulièrement. Ce genre de « Ben non, toi, on juge qu'aujourd'hui, tu ne mérites pas de participer. Tu n'as pas la valeur nécessaire pour faire partie de cette activité-là. » Mais pour certaines personnes, ça arrive une fois par année. Bien, pour les gens en situation de handicap, ça arrive très régulièrement.
Je pense qu'on va vouloir le défendre d'autant plus quand on a un proche qui le vit. C'est-à-dire que tu n'es pas seul à le vivre. Non. Ton frère l'a vécu. Tu as un sentiment protecteur envers ton frère, un peu comme un parent envers son enfant aussi. J'ai l'impression que c'est encore plus fort dans ce temps-là de vouloir faire bouger les choses.
Ah, puis ça arrive encore. Quand mon frère m'appelle pour me raconter une injustice qu'il a vécue, j'ai encore cette boule d'émotion en moi qui est comme je vais aller au-devant, puis ça n'a pas de bon sens. Mais là, il est rendu assez grand. Pour lui-même se battre. Mais c'est ça, quand tu disais tantôt que je me battrais pour mon frère, quand je voyais des situations où, justement, ça n'avait pas de bon sens ce qu'il vivait. Mais tu sais, des fois, je le levais la main et disais, hey, c'est pas correct ce que vous avez fait. Puis, tu sais, comme, c'est pas moi qui le vivais, mais je savais que ce qu'il était en train de vivre, c'était pas cool.
Y a-t-il une compétition entre vous deux?
Zéro. C'est surprenant parce que dans les médias, souvent, il y a cet esprit-là entre compétition.
Complètement.
Entre collègues, entre médias.
Oui. Parce que ton frère aussi est dans le domaine.
Il est journaliste, effectivement. On a travaillé dans la même salle des nouvelles pendant 6 ans à peu près. Après ça, on a chacun pris nos chemins, on a déménagé, mais aucun esprit de compétition. Au contraire, on veut tellement que l'autre donne de son meilleur et soit à son meilleur. Je me souviens un jour... Je travaillais dans la salle des nouvelles à Ottawa pour le web. Et puis, 2 minutes avant la fin de mon chiffre, il y a eu la mort d'un grand politicien, Maurice Bélanger. Et là, il faut que je couvre cette nouvelle-là. Mais là, je suis toute seule dans la station. Il faut que je m'occupe du web, de la radio, de la télé. Impossible.
Gros défi.
Mon frère, il m'appelle. Puis là, c'était l'été. Moi, j'avais mis une chemise hawaïenne avec un pélican, des palmiers, une chemise qu'on ne peut pas mettre à la télé quand on est journaliste. Puis là, j'appelle mon frère, je dis, il faut que je fasse un direct à RDI dans 30 minutes. Il dit, je m'en viens. Il s'est emmené à la course, m'a amené une belle chemise, une cravate. Wow. Et là, il a pris mon siège pour compléter le texte web. Et là, moi, j'étais assis devant la caméra. Il me restait 2 minutes avant mon direct. Puis il dit, OK, il y a une nouvelle réaction. Il m'imprime une réaction politique sur Twitter. Il me l'amène. On est tellement complémentaires. Puis lui, il ne travaillait pas cette journée-là. Mais il voulait tellement que je donne de mon mieux puis que je sois performant. Il a tout fait pour que je réussisse. C'est le genre de situation qui arrive régulièrement. Mais
puis probablement que si vous n'aviez pas votre différence que vous partagez, ce serait peut-être pas comme ça. Moi, en tout cas, tous les jumeaux et jumelles que j'ai connus, il y a une compétition qui s'installe.
C'est vrai, hein?
Fait que probablement que ça a joué.
Bien, probablement que oui, ça a joué là-dedans parce que souvent dans un milieu de travail, les personnes en situation de handicap, si ces personnes-là, je sais pas, font une erreur ou sont moins performantes, on va souvent associer ça au handicap. Donc, probablement qu'on voulait éviter ça, mon frère et moi, que j'ai pas été performant, c'était pas lié à mon handicap. C'était lié que j'avais pas les outils, que j'avais pas le temps nécessaire, que j'avais pas l'expérience nécessaire parce que j'étais jeune. Je pense que c'est ça qui, involontairement ou même volontairement, nous habitait, mon frère et moi, c'est on veut éviter que l'échec ou en tout cas la moins bonne performance soit liée au handicap.
Donc, vous êtes toujours élevé un peu un l'autre. Puis y a-tu des choses que tu lui dis pas? Est-ce que tu dis tout à ton frère?
Non, pas tout.
Qu'est-ce que tu dis?
Ben, on dirait que tout ce qui était lié à ma vie amoureuse, ça, on n'en a jamais discuté. Les émotions, c'est tout ce qui est très proche. Ça, on n'en parlait pas. Je pense qu'on se dit tout ce qui est lié au travail, aux amitiés, aux petites expériences qu'on peut vivre. Mais quand ça devient des émotions profondes, on dirait que ça, on en parle moins.
Pourquoi, tu penses?
Je sais pas, hein, pourquoi on n'en parle pas. Puis c'est pas juste moi. J'ai l'impression que lui aussi, il va moins m'en parler. Peut-être que...
Votre éducation, ça a du rapport?
Bien, peut-être que ça a rapport avec notre jeunesse, où on veut tellement performer, peut-être que là, on voit ça comme un petit échec, ces émotions-là. Donc, on s'en parle moins.
T'en parles avec qui, tes émotions?
Ouf! Avec moi-même. Faut travailler là-dessus, hein?
Oui! Surtout là, tu sais, on est dans une ère où on parle beaucoup de ça, là, tu sais, d'exprimer ses émotions, de consulter, d'aller en direct, tout le monde est en thérapie, là, tu sais, c'est comme si c'est un besoin d'en parler, puis qui est quand même fondé dans le sens que c'est...
Mais j'ai des bons amis, j'ai un bon copain avec qui, quand même, je peux en parler. Puis...
Bien, c'est important, quand même, que tu sois capable de faire ça, là. Parce que toi, tu viens de...
Moi, je viens de l'Abitibi.
D'Abitibi, c'est ça. Qui est quand même une région, là, tu sais. Tu m'as déjà dit que ton père était... C'est ça, tu m'as déjà dit que ton père était un gars de bois, c'est ça. Comment tu fais ton coming out à cette... Je vais dire, cette société-là, ces gens-là, comment ça s'est passé, ça?
Ça a été l'expérience la plus stressante de ma vie. Ça a été stressant, mais ça a été... tellement beau. Genre, je pense que j'ai été beaucoup trop stressé pendant des années, je tiens à le dire. Oh. Parce que moi, vers l'âge de 14 ou 15 ans, je le savais que j'étais gay et que je voulais en parler à ma famille, mais j'avais pas les outils, j'étais pas prêt à le faire. Puis là, à l'âge de 17 ans, c'est là où, concours de circonstances, il faut que je le dise à mon père. Et là, mon père, moi, j'habitais à Ottawa, j'ai déménagé à Ottawa pour les études à 17 ans. Mon père, ce week-end-là, était venu me rendre visite. Et puis, il y avait une fille avec qui j'étais allé au secondaire. Elle avait croisé la blonde à mon père en Abitibi pendant ce voyage-là. Donc, la blonde de mon père était restée en Abitibi, mon père était à Ottawa. Et je dirais pas que c'est une amie d'une connaissance du secondaire, savait que j'avais un chum. Et elle a dit à l'épicerie, à la blonde à mon père, « Comment Jérôme vit ça loin de son chum? » Parce que mon chum était resté en Abitibi.
Oh mon Dieu, c'est...
Et là, la blonde à mon père a dit, ben, je veux dire, c'est pas son chum, c'est son ami. Puis là, il est comme, mais non, c'est son chum. Fait que là, c'est là que la blonde à mon père m'appelle. Et comme, là, c'est correct en passant, c'est super correct. Je sais que ton père va bien le prendre, mais il faut que tu lui dises en fin de semaine, ton père peut pas revenir en Abitibi. Puis moi, je suis au courant de ça, puis pas lui.
Fait que c'est elle qui t'a motivé à en parler.
Ben oui, puis je me suis retrouvé dans une situation où j'avais comme pas le choix de le faire. Parce que je voulais pas non plus que mon père l'apprenne par la blonde à mon père. Donc là, j'ai écrit une lettre. une lettre de quelques pages à mon père. J'ai dit, écoute, Alex, avec qui je suis, qui m'accompagnait à mon bal de finissant,
okay.
Est plus que mon meilleur ami. C'est mon copain. Puis là, dans la lettre, j'ai écrit, est-ce que c'est correct si je m'appelle encore Jérôme Bergeron ou t'as mieux que je change de nom de famille? Parce que j'étais stressé. Puis là, mon père dormait à l'hôtel. Quand je l'ai reconduit à l'hôtel, j'ai donné la lettre, j'ai dit, Lila, quand tu vas te rendre dans la chambre? Et puis là, mon papa, il me rappelle tout de suite quand j'arrive à la résidence où j'habitais. Puis il était comme, c'est correct, mon grand? Puis la première question qu'il m'a posée, c'est, est-ce que tu t'es fait intimider à cause de ça? C'est parce que je veux pas que ça arrive. C'est beau, hein? C'est son cœur de père qui se dit,
oui.
Tu sais, je vois que ben tu es une personne gay, donc probablement que tu vas vivre l'intimidation. Est-ce que tu en as vécu?
Puis je veux pas. Double différence, on va dire, oui. Parce qu'en plus, t'as surdité.
Je suis en situation d'handicap. J'étais comme, non, ça va bien. Ça va bien, wow. Je suis heureux. Puis finalement, je me suis dit, hey, pourquoi j'ai été stressé pendant toutes ces années? Puis finalement, ça a été tellement la plus belle réaction que je pouvais attendre de mon père.
Mais puis c'est sûr que ça change tout le cours de ta vie, tu sais, mm-hmm. la réaction de tes proches quand t'annonces ça. Ouais.
Puis je trouve que moi, d'avoir fait mon coming out à mon père, ça m'a rapproché de lui. Ça a été des relations plus vraies, plus franches, des discussions plus vraies aussi.
Ouais.
Parce que je disais, je m'en vais chez mon ami Alex, puis... Mais là, maintenant, je sais, je pouvais dire, je m'en vais chez mon chum, puis...
Tu peux être transparent.
Exact, je pouvais être transparent, puis... Fait qu'on... Depuis ce temps-là, on s'est jamais chicané. Avant, on chicanait. Fait que je trouve que ça a apporté que du beau.
Dernière question.
Oui, déjà.
De quoi t'es le plus fier dans ton parcours?
Ah, je suis fier d'avoir été au-delà des obstacles qui se sont présentés devant moi, puis des obstacles que les autres ont voulu mettre devant moi aussi. Ma plus grande fierté professionnelle, c'est d'avoir remporté un prix Judith Jasmin. Après, tu sais, ça fait moins de 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai été tellement honoré qu'on reconnaisse mon travail de journaliste, après tous les efforts personnels que j'ai mis là-dedans aussi. Je suis fier, en fait, juste de l'homme que je suis rendu.
Ah oui.
D'avoir pris le chemin de l'accessibilité, d'être entouré de ma famille, de mon chum qui est l'homme idéal pour moi. Je suis fier de tout.
Ah, j'aime ça. OK, là, c'est quétaine, mais...
Mais oui.
Moi, je vais te dire, je suis fier de te connaître.
Oh, je suis vraiment content.
Je trouve tellement que t'es comme une belle découverte. Merci tellement d'avoir accepté de venir me parler.
Merci à toi. C'est déjà fini?
Oui, ça va vite de même.
On recommence n'importe quand.
Je suis tellement d'accord. À venir. Pour découvrir les autres émissions d'Ami Télé, rendez-vous sur amiplus.ca. C'était Je sais pas comment tu fais. Recherche et animation, Audrey Metcalf. Invité, Jérôme Bergeron. Réalisation, Raphaël Mercier. Une production Ami Télé 2024.